Pop-opien, et tous les autres aussi, bonjour. Vous le savez, vendredi, c'est podcasty. Comme chaque vendredi, me direz-vous, et je vois que vous suivez, mais c'est un podcasty remix ou remixy que nous vous proposons avec la crème de la crème du podcast. Avec nous aujourd'hui, dans l'arène, le suprême, la crème, la cerise sur le gâteau, comme disait NTM. Pascal Seffran et Raphaël Dacruz, les créateurs du podcast Béton au nuage, un podcast produit par le Move, qui revient sur l'histoire du rap, rien que ça. Avec nous également dans ce podcasty remixy, Flaubert, alors pas Gustave, mais Florent Bernard et Adrien Méniel, les podcasteurs du Floodcast. Le quoi ? Le Floodcast. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Bah, le pitch est simple. Inviter ses copains pour parler de plein de choses. C'est simple, mais c'est flou. Et nous allons tout vous raconter, podcasty. Remixy, c'est parti.
France Inter. Pop, pop, pop. Antoine de Caunes.
Bonjour Pascal Seffran. Bonjour Raphaël Dacruz.
Bonjour.
Bonjour Antoine.
Bonjour messieurs. Alors bienvenue dans Pop Podcast. D'abord, est-ce que vous arrivez à prononcer correctement le nom de cette émission ?
Pop Podcast ?
Encore un.
Pop Podcast ?
Bien.
Pop Podcast.
Ouais, l'examen est passé. Premier saut d'obstacle réussi. Ensemble, nous avançons donc d'une case pour parler de votre podcast du béton au nuage, produit par nos amis du Move. Ce podcast, Raphaël Dacruz, vous l'avez conçu et écrit, et vous, Pascal, vous le racontez, et ça tombe bien puisque vous avez une voix qui s'adapte au rap, non ?
J'espère, en tout cas, ça fait longtemps que je la donne pour cette culture, voilà.
Et ça marche, vous êtes une courroie de transmission d'une certaine manière, comme nous le sommes tous à notre manière.
Exactement.
Ah, on est d'accord. Raphaël, pourquoi avez-vous tout de suite pensé à Pascal plutôt qu'à, je ne sais pas moi, Stéphane Bern ?
Ah, grande question ça. Mm-hmm. Ça aurait été pas mal pour une émission sur l'histoire, ouais. En plus d'avoir Stéphane Bern. Non mais parce que Pascal, depuis 15-20 ans maintenant, ça fait combien de temps ?
C'est ça, ouais, depuis 2003.
Depuis 2003, voilà. C'est une des voix en fait à la radio pour le rap français. Avant c'était sur Génération 88.2 et puis ensuite c'est arrivé sur Move. Et donc c'est une voix qui incarne en fait le rap français. Mm-hmm. Parce qu'il accueille des gens dans ses émissions, parce qu'il transmet, comme vous le disiez justement Antoine. Donc c'était une évidence, et puis c'est une voix qui incarne Move, tout simplement.
Et vous Pascal, vous pourriez faire un podcast secret d'histoire ?
Je ne pense pas, je laisse ça à Stéphane Bern.
Non, ça pourrait se tenter.
Je te vois bien parler de Louis XVI, moi.
Why not, mais non, je suis bien avec du béton au nuage.
Voilà. Je préfère du béton au nuage. Rendu béton au nuage, c'est un titre qui sonne comme un morceau de Booba.
Je suis arrivé dans le champ, crasse la guerre dans mon morceau. Si je me fais canner, pas besoin d'en faire une chanson. Mon stylo dans la terre, je t'aurai sans rançon. Ça sans rancune, tu le bitume avec une plume.
Le bitume avec une plume. Vous vouliez mettre un peu du duc de Boulby dans votre titre ?
Ah bah, de toute façon, on parlait de rap français. Sans parler de Booba, c'est un peu compliqué évidemment, mais évidemment, j'avais pensé à ce titre-là du bitume avec une plume. Mmh. Mais non, j'ai bien aimé l'idée de béton au nuage parce que ça montrait l'idée d'ascension du rap français.
Ouais.
Et surtout, en plus, cette évolution musicale de quelque chose de très dur au départ, de très rappeux, vers quelque chose de beaucoup plus étiolé, de beaucoup plus aérien sur les dernières productions musicales du rap français. Donc je trouvais que ça
était consensuel.
Plus standardisé aussi, ouais. Clairement. Ouais. Donc oui, il y a aussi une sorte de double sens dans ce titre-là, mais évidemment, le bitume avec une plume, c'était une inspiration. Oui.
Parce que j'ai l'impression qu'il y a un peu de Booba hein, dans tous les titres. Je pense entre autres à la série de Canal Validé. Mm-hmm. Oui, je sais, c'est impressionnant, j'ai une énorme culture rap. Et vous savez que notre émission a aussi un titre qui vient du rap.
À base de pop, 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 pop.
Évidemment.
Évidemment.
Oui, Saint-Saëns Style de NTM.
Mais bien, bravo, à base de pop, 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 Joey Star, en live à ce micro, au micro de pop, 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 il y a quelques temps. Alors, Joey Star et NTM qui font évidemment partie d'un des épisodes du Béton au Nuage, ce podcast qui retrace la saga du rap français en 11 épisodes. Nous allons en parler dans ce numéro de pop, pop, podcast avec Charline Roux qui nous rejoindra juste après un morceau d'IAM à qui vous consacrez justement un de vos épisodes.
Petit frère n'a qu'un souhait de devenir grand. C'est pourquoi il s'obstine à jouer des sauvages dès l'âge de 10 ans. Devenir adulte avec les infos comme mentor, c'est éclater les tranches de ceux qui ne sont pas d'accord. À l'époque où grand frère était gamin, on se tapait des délires sur Blanche-Neige et les sept nains. Maintenant les nains, on giclait Blanche-Neige et tape éclate, des types claquent dans Mortal Kombat. À 13 ans, il aime déjà l'argent, avide mais ses poches sont arides. Alors on fait le caïd dans des booms qui sont désormais des soirées plus de sirop dessert. Petit frère de tes pierres, je ne crois pas que c'était volontaire. L'adulte c'est certain, indirectement a montré que faire le mal c'est bien. Demain ses cahiers seront pleins de ratures. Petit frère fume des spliffs et casse des voitures.
Petit frère a déserté les terrains de jeu.
Il marche à peine et veut des bottes de sept lieues.
Petit frère veut grandir trop vite, mais il a oublié que rien ne sert de courir. Petit frère,
rêve de bagnole, de fringues et de thunes, de réputation de dur. Pour tout ça, il volerait la lune. Il collectionne les méfaits, sans se soucier du mal qu'il fait, tout en demandant du respect. Peu lui importe de quoi demain sera fait, de donner à certains des raisons de mépriser son cadet. Dans sa tête, le rayonnement du tube cathodique a étouffé les vibrations des dames, dames de l'Afrique. Plus de cartable, il ne saurait pas quoi en faire, il ne joue plus aux billes, il veut jouer du revolver. Petit frère a jeté ses soldats pour devenir un guerrier, penser au butin qu'il va amasser.
Petit frère a déserté les terrains de jeu,
il marche à peine et veut des bottes de 7 lieux.
Petit frère veut grandir trop vite, mais il a oublié que rien ne sert de courir. Petit frère, petit frère.
Les journalistes font des modes de la violence à l'école, existait déjà de mon temps, les rackets, les bastons, les dégâts, les coups de patte dans les pare-brises, les tirs des instituteurs, embrouille à coups de cutter. Mais on parlait au journal tous les soirs, ça devient banal, ça s'imprime dans la rétine comme situation normale. Et si petit frère veut faire parler de lui, il réitère ce qu'il a vu avant 8h30. Merde, en 80 c'était des états de fait, mais là ces journalistes ont fait des états, et je ne crois pas que petit frère soit pire qu'avant. Juste surexposé à la pub aux actes violents pour des grandes causes et de meilleurs citrons. La cible numéro 1, le terrain des produits de consommation. Et pour être sûr qu'ils s'en procurent, petit frère s'assure, flingue à la ceinture.
On sait ce que tu es quand on voit ce que tu possèdes. Petit frère le sait et garde ce fait en tête. L'argent lui ouvrirait les portes sur un ciel azur aussi facilement que ses tournevis ouvrent celles des voitures. Le grand standing et tout ce dont il a envie, ça passe mieux quand tu portes un Giorgio Armani. Soucieux du regard des gens, malgré son jeune âge, petit frère fume pour paraître plus grand. Il voudrait prendre l'autoroute de la fortune et ne se rend pas compte qu'il pourrait y laisser des plumes. Il vient à peine de sortir de son œuf, et déjà petit frère veut être plus gros que le bœuf.
Petit frère a déserté les terrains de jeu,
il marche à peine et veut des bottes de 7 lieux.
Petit frère veut grandir trop vite, mais il a oublié que rien ne sert de courir. Petit frère,
Ayam, petit frère, et c'est sur ce son que vient d'entrer celle qui pèse dans le rap game. Enfin, le rap game de Picardie.
C'est une question de poids, en fait, uniquement, parce que pour ce qui est de la crédibilité, on n'y est pas.
Charline Roux, bonjour. Bonjour. Charline, est-ce que le rap Picard a évolué depuis Charline Roux et Camini?
J'ai pas de la cité, mais le beat est bon. Je viens pas de Panama.
Une question que je pose évidemment à Raphaël et à Pascal.
Grosse scène, hein, le rap Picard.
Ouais.
Bah, NASA vient de Picardie, par exemple. Mm-hmm. NASA qui est un rappeur important de ces dernières années, par exemple.
Ouais.
Voilà.
Donc elle a évolué dans le bon
ça,
sens.
Ça évolue.
Ça
ouais.
bouge beaucoup. Charline ?
Non, non, mais moi, de toute façon, c'est toujours les mêmes gens quand il est question de Picardie. C'est Camini et Jean-Pierre Pernaut. Donc, il y a un moment.
Bah voilà, maintenant, vous pouvez dire NASA.
Merci.
Bon, Raphaël Dacruz, Pascal Seffran, nous venons d'écouter Ayam, ces pionniers du rap marseillais, qui vous consacrait le troisième épisode de votre podcast Du béton au nuage.
Petit frère est un des premiers morceaux qu'on a fait sur l'école du micro d'argent. Et en fait, c'est juste une réorientation sonore. De par nos influences musicales américaines et notamment Mobb Deep. Hey yo, it's hell on earth. Who's next are gonna be first? The project's front line and the enemy is one time. I ain't gotta tell you. It's right in front of your eye. On veut épurer, on veut vider. Ombre et lumière est surchargée. L'école du micro d'argent va être complètement vide, musical et vide. Tout simplement, nos goûts musicaux et l'influence des écoutes qu'on avait nous ont fait glisser dans cette direction-là.
Un bide à l'école du micro d'argent, tu as raison. Dans cet épisode, vous retracez toute l'ascension du rap marseillais avec des entretiens inédits d'Ayam, de Faflarage, d'Alonzo, des Psy 4, de La Rime ou encore de Sat de la Funky Family. Encore une fois, c'est un podcast plus difficile à monter que Secret d'Histoire. Comment avez-vous procédé pour avoir ces interviews?
Bah, assez simplement, on a contacté ces différents artistes en leur expliquant un peu l'ambition, le leitmotiv de cette série documentaire. Et la plupart ont très vite accepté. Ça a été le cas par exemple de Sat, qui était un des premiers que j'ai interviewé, c'était l'été 2020. Et puis voilà, ça s'est fait de fil en aiguille comme ça. Mmh. Et puis je crois qu'il y a eu une sorte parfois de bouche à oreille entre les artistes aussi. Parfois, ah oui, tiens, il m'en a parlé, bah, avec plaisir pour le faire. Et donc ça s'est fait comme ça.
Mais est-ce que le format podcast vous a aidé pour le coup? Plus que si c'était une émission sur une radio ou sur...
Ça facilite les choses, effectivement, puisque...
L'émission avec Pascal Sefranc, par exemple.
Ça facilite les choses. C'est vrai qu'en, rien qu'en termes de dispositif, en fait, d'avoir qu'un micro branché, parfois, par exemple, pour SAT ou pour certains artistes de Marseille, je suis allé là-bas avec mon Agra, et puis, donc avec mon enregistreur, et puis ça puisse faire beaucoup plus facilement, effectivement, s'il y avait une équipe technique complète avec trois caméras, un preneur de son, etc. Donc, effectivement, ça facilite les choses, oui.
Alors, pardonnez-moi si j'étale un peu ma culture, mais peut-on dire que Marseille est la capitale du rap français, parce qu'avec IAM hier et aujourd'hui avec le collectif 13 organisé, je sais en disant ça que je lance un pavé dans la mare.
Je répondrai simplement
Pascal.
Non.
C'est parce que tu es un chauvin parisien, toi.
Parce que vous êtes parisien, non?
Un petit peu. Ouais. Mais clairement, pour moi, le rap marseillais a son importance et depuis le début, mais pour moi, la capitale du rap en France, ça restera Paris
Et
sa région,
France,
quoi, l'Île-de-France.
Pourquoi la capitale? Parce que c'est ici vraiment que ça a démarré, que ça s'est organisé.
Ouais, il y a beaucoup plus
structuré.
De groupes, beaucoup plus d'artistes, et on a mis beaucoup plus de styles aussi différents, que ce soit le cloud rap aujourd'hui avec PNL, ou MC Solar à l'époque, ou encore NTM, ou Lunatic, ou je peux en citer encore et encore et encore. Comparé à IAM, il n'y a pas autant d'artistes, même si aujourd'hui c'est une véritable explosion, notamment grâce à 13 organisé, mais je laisserai faire.
Ouais, mais je pense que c'est aussi une question de proximité avec l'industrie musicale. On est dans un pays très centralisé aussi. Et ça a permis beaucoup plus de facilité à des groupes de se développer et d'avoir une porte d'accès, en fait, pour enregistrer des choses. À Marseille, il s'est passé énormément de choses, mais qui ont été moins médiatisées, moins exposées, mais qui ont aussi permis, en fait, de planter des graines, de semer des graines, qui ont vu émerger, tous les artistes qu'on connaît aujourd'hui, les Jul, les SCH, etc. En fait, ce sont des enfants, en fait, de ces années un peu compliquées pour le rap marseillais, mais qui montrent à quel point c'est une scène très vive.
Et puis, comme vous me le disiez tous les deux, hein, Pascal, Raphaël, juste avant l'antenne, Marseille, c'est vraiment des tocards.
Exactement, mais ça
et tout de suite, nous accueillons Shuriken et Chill.
Super.
Non, mais énormément de respect pour eux et j'adore leur musique, je suis fan totalement, mais personnellement, je pourrais pas dire que c'est la capitale du rap en France. Oui, impossible.
C'est la question se pose aussi pour le foot, j'imagine que ce sera la même réponse.
Exactement.
On l'aura compris, vous êtes tous les deux. Vous êtes tous les deux des docteurs S-rap, mais du coup, avec ce podcast, est-ce que vous voulez vous adresser aux spécialistes? Aux néophytes, est-ce que vous avez pris garde à justement à ce que ce soit audible par tous?
C'était un peu le défi de ce podcast, c'est qu'il y a un équilibre entre les deux. C'est-à-dire que les passionnés prennent un plaisir à avoir cette espèce de photographie large, ce panorama de l'histoire du rap en français, ou en tout cas des différents mouvements qui ont fait son histoire et qui ont donné les différentes directions musicales qu'il a pu connaître. Et en même temps, avoir une approche pédagogique pour que des personnes qui connaissent un peu, voire pas du tout ce genre musical, puissent comprendre un peu les clés de ce qui s'est passé en France. Pas de manière toujours chronologique, mais plus de comprendre un peu les enjeux musicaux, esthétiques, culturels qui a traversé ce genre musical, qui est maintenant installé depuis 40 ans en France, quoi.
Pardonnez-moi, je vous mets un instant de côté, ma chère Charline, mais Pascal, Raphaël, nous sommes tous les trois, n'ayons pas peur des mots, des spécialistes du rap.
Ah, surtout vous, Antoine.
Vous, Raphaël, vous êtes un journaliste spécialisé. Et vous, Pascal, vous animez donc Move Rap Club sur Move. Et moi, par exemple, moi, je n'ai jamais dit breakdance, comme on disait à l'époque dans les médias.
On disait le smurf.
Non, les journalistes disaient breakdance.
Mais il y a tout un lancement d'ailleurs dans le premier épisode où on entend des flashs.
L'époque de flash dance. Bon, voilà, trois spécialistes.
Est-ce que sur ce podcast, en travaillant, vous avez vous aussi appris des choses? Est-ce que vous avez découvert des pans de l'histoire du rap que vous ne connaissiez pas? Alors même que vous êtes spécialiste, rappelons-le.
Alors, des pans de l'histoire, peut-être pas, mais peut-être des connexions, des influences de certains artistes avec le rap américain, ou simplement aussi des interconnexions, en fait, entre certains artistes. Parfois, oui, là, j'ai appris des choses, parce qu'à chaque fois, c'est des entretiens que j'essaie d'avoir pendant à peu près une heure avec chaque artiste. Ça permet, moi aussi, de m'aider à l'écriture, finalement, l'écriture de la voix off ensuite de Pascal. Donc, oui, là, ça a pu m'arriver d'apprendre des
comme
choses.
Comme
quoi? Eh bien, par exemple, j'ai appris que Diams, à ses tout débuts, elle fréquentait un rappeur qui s'appelle Coma, et donc qui fait partie d'un collectif parisien très important dans le rap français qui s'appelle la Secret Connection, et qui est un collectif dont le mot d'ordre c'est jamais dans la tendance, toujours dans la bonne direction. C'est une sorte d'école de gardien du temple, j'ai envie de dire, même si c'est un peu réducteur. Et donc Diams, en fait, pendant très longtemps a traîné avec ce rappeur là et ça, par exemple, je l'ignorais. Et
c'est
parce que j'avais très mal fait mes devoirs parfois. C'est pour ça,
moi, je le savais. Et vous, Pascal, qu'est-ce que vous avez appris en cours de route?
Moi, c'est vrai que je connaissais une bonne partie des de l'histoire, des sujets et tout, mais c'est vrai qu'il y a plein de petites anecdotes difficiles à ressortir comme ça directement ou qui vont pas forcément parler au, ouais. au public, mais moi ça va me parler, tous les connaisseurs de rap, un peu pour revenir aussi sur la question de tout à l'heure, ça parle vraiment à tout le monde, donc ceux qui ne connaissent absolument rien à cet univers, ça va forcément leur parler s'ils sont un petit peu intéressés pour apprendre un peu plus sur l'histoire du rap en France qui a déjà 40 ans d'histoire, donc maintenant je pense aussi qu'on fait ce podcast, mais il y a plein de petites infos, plein de petits détails par-ci par-là pour les passionnés également qui sont bonnes à prendre, quoi. C'est toujours cool de
savoir.
Mais pas peur
que le rap subisse le sort du rock, que ça devienne un objet d'étude maintenant
on
sérieux,
espère.
Qu'il subisse le bouquins partout.
Non là, ça commence déjà un peu à devenir le cas. Il y a de plus en plus de productions justement de livres sur l'histoire, l'histoire
études,
du rap. C'est de plus en plus étudié à l'université. Bah, de toute façon, c'est cyclique, hein. Je veux dire, le rap, comme je le disais, existe en France depuis une quarantaine d'années. Mmh. C'est encore plus vieux aux États-Unis. Ouais. Donc, c'est certain, en fait. C'est une musique non académique, comme le rock a pu l'être à ses débuts, ou comme d'autres, beaucoup de musique électronique également. Et ouais, faut, au bout d'un moment, en fait, par évolution démographique et par ancrage culturel, forcément, ça.
Et puis, c'est devenu la musique la plus écoutée.
C'est,
aujourd'hui.
Alors, en tout cas, c'est l'une des plus écoutées, c'est certain, oui. Ça, c'est sûr. Avec l'arrivée du streaming en 2017, là, c'est devenu incontestable.
Il y a des chiffres, voilà.
Des chiffres parlent. Alors, avec vous et votre DeLorean, on passe de Assassin et MC Solar dans les années 80 à Nekfeu et Orelsan aujourd'hui. Comment l'avez-vous vu évoluer ce rap français, vous qui le scrutez depuis de si longues années?
Alors comment il a évolué? Ben plutôt bien, parce que voilà, il y a du rap partout maintenant, au-delà de la musique. Chaque marque qui veut mettre en avant un nouveau produit, souvent ils vont appeler un rappeur parce que c'est ce qui parle à la cible. Et aujourd'hui surtout, il y a du rap pour tous les goûts. Ouais. Ça a toujours été plus ou moins le cas, mais c'est vrai qu'aujourd'hui c'est vraiment très 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 large. Certains artistes font de la pop, mais ils se disent rappeurs presque. Mmh. Donc il y a du rap cloud, du rap hardcore,
de l'afro-trap,
le classique. Il y a de l'afro-trap. Il y a du, ce qu'on appelle du rap boom bap également, qui est un rap un peu plus à l'ancienne, mais qui s'actualise quand même en 2021. Donc il y en a vraiment du rap pour, il y a du rap pour tout le monde, des rappeurs pour tout le monde. Il y a toutes sortes d'écritures. Il y a le rap de la rue, il y a le rap de dealer aussi. Mmh. Voilà, il y a tous les genres qui sont disponibles. Mmh. C'est pas forcément, mais ils sont pas tous mis en avant. Voilà.
Alors votre série est très fouillée, très documentée, très complète. Pour autant, merci. Aucun mot sur ce rappeur français.
J'ai 40 ans, c'est 2x20, j'ai toutes mes dents, c'est pas en vain, j'ai donné un grand coup de balai avant d'avoir 40 balais.
Christophe Barbier,
DJ
le
Boomer,
éditorialiste. C'est un oubli ou un oubli volontaire peut-être?
Bah, en fait, quand on fait de l'historiographie, parfois, on fait des choix. Et ben voilà, on l'a rayé de l'histoire, de notre histoire. Voilà, ça, c'est comme ça.
On reparle dans un instant de béton et de nuages, des techniques quand même, cette histoire de crayons, de cassettes, tout ça se perd. C'est très dommage. Bon, enfin, bref, votre podcast n'est pas à écouter en cassette, mais sur toutes les plateformes. Et nous allons en reparler juste après un morceau de Damso, Morose.
Je suis tellement loin. Parti pour quelques heures, écrire sur le monde, exilé dans simulateur, près de couleuvres sables en mouvement, foncer, trop près c'est de plus penser, cerveau danse, tant que débranché, sans te défense, plus rien de sensé, sort dans ma tête de bouche, faut que je me teste, que je l'ouvre, ok, trop de tes questions brusques, beaucoup de pression, muscles, trop de stress, pas d'émotion, agression à chaque réflexion, bac, oppression à ta restriction, blague, tu veux pas de moi, tu veux pas de nous, mais tu peux pas le dire en face. J'calme mes nerfs, j'en vais tango. J'balance des phrases sur une compo. Moro. Moro. Donne-moi ton père, et puis j't'appelle et ramène à l'hôtel comme si de rien n'était. Donne-moi ton père. L'amour dans la mort, t'arrêtes pas de causer du tort. Tu t'ouvres les veines, mais encore là, t'ignores tous tes efforts. Tour à tour, les deux ports se ferment et tu te fais des ports. S'il le faut, tu le fais, il est faux, tu le sais. Illico, tu le fais, silicone dans la fesse, une icône dans la presse, une miche, toi dans la tête. Jamais seul, tu t'en sortiras. Il reste une place dans le corps, hier. J'écris sur tout ce que je pense, et voir. J'écris sur tout et son corps, hier. Et sur ce que je risque d'apercevoir. J'aime quand je te perds, regarde d'avance. Quand c'est ta gère, chante ta fragrance, tout c'est
sévère, pas mon douce à l'ammoniaque. T'aimes le bandit que je suis, t'aimes la vie que tu me suis. Tu comptes sur mes économies, t'es ma que pour aujourd'hui. T'as pu, j'ai fait doubler la mise, père. Bientôt j'abandonne le vice, pas loin, j'prends fils et mère. J'calme mes nerfs, j'vois VER, tango. J'balance des bras sur une compo. J'calme mes nerfs, j'vois VER, tango. J'balance des bras sur une compo. Moro.
Inter. Antoine Decaune. Pop, pop, pop.
On n'était pas encore en train de se dire, on est dans un mouvement culturel qui va basculer. On était dans la notion d'une nouveauté.
Au début des années 1990, un genre musical audacieux et novateur produit ses premiers albums en France.
Il y avait quelque chose qui se passait et qui était clairement un mouvement qui était en train de naître, en train de se structurer.
Dagger, Smurf, Breakdance,
Graffiti, Zoulou, Phénomène Hip-Hop.
Les premiers freestyle radio, au premier disque, c'est l'époque de la fondation du rap français.
Il y avait tout à faire, il fallait juste oser en fait.
Parce que quand on tape du poing sur la table, il y a comme ça qu'on nous écoute malheureusement quoi.
Du béton au nuage, la saga du rap français en 11 épisodes.
Pascal Seffran, Raphaël Da Cruz, baissons la tête tout en la remontant et en ouvrant nos oreilles. C'est pas évident, mais c'est ce que vous nous conseillez de faire avec votre podcast.
Coordonner quoi.
Du béton. On est surtout indépendant avec les oreilles. Quel est l'avis? Qu'est-ce que vous avez reçu comme feedback de la scène rap française en écoutant cette série?
Eh ben, pour le moment, j'en ai pas eu, moi.
Moi non plus.
Non,
moi non plus. Charline, peut-être, en Picardie.
Camini?
Oui.
Je peux l'appeler, hein, si vous voulez. Mais ceci étant dit.
Comment est-ce que c'est perçu par les rappeurs d'être inscrits comme ça dans une histoire?
Ah, je pense que pour eux, par contre, ça c'est important, effectivement. Ouais. Qu'on dise que cette musique a une histoire, qu'elle a une légitimité. J'espère qu'en 2021, la plupart des gens comprennent que cette musique, en tout cas, a une légitimité dans le paysage musical français.
Plus personne n'en doute, non?
Bon, je pense qu'il y a toujours des personnes qui n'aimeront pas le rap et qui considèrent que c'est une sous-culture, comme disait un certain éditorialiste qui va se présenter à la présidentielle, visiblement. Donc, je pense qu'il y a des personnes, de toute façon, qui n'aimeront jamais le rap, et c'est pas grave, en fait, on s'adresse pas à eux. Ouais. Voilà. Mais je pense que c'est effectivement, de toute façon, important pour les rappeurs de que leur histoire soit racontée et que les choses soient précisées sur quelles étaient leurs intentions. Parce que pendant très longtemps, le rap, ça a été juste vu médiatiquement comme une sorte de vecteur sociologique. On invitait les rappeurs pour parler de la crise des banlieues, ce genre de choses. Non, en fait, les rappeurs, ce sont aussi des artistes, des gens qui ont des inspirations, qui ont des influences. Ce sont des gens créatifs et donc c'est important de rappeler en fait que avant tout ce sont ça et que c'est à travers le biais du rap justement qu'ils ont essayé d'exprimer quelque chose et qu'ils ont construit tous ensemble quelque chose.
Mais alors justement, on aura tous remarqué que la parole de certains se fait rare entre peur qu'elle soit dévoyée cette parole ou pour d'autres joue aussi le fait qu'ils n'ont pas vraiment besoin des médias en fait pour arriver où ils veulent aller. Est-ce que vous avez essuyé beaucoup de refus?
Pas tant que ça. Sur les trois premiers épisodes, pas tant que ça. En fait, on a essuyé un refus, qui était par exemple celui de Dali, donc l'ancien partenaire de Booba au sein de Lunatic. comme en fait pour lui cette histoire de lunatique c'est derrière lui, il a envie d'aller de l'avant, il a pas forcément envie d'en parler, ce que je peux absolument comprendre et c'est pas un souci là-dessus. Et après c'était parfois des histoires de concordance d'agenda. Ouais. Par exemple, on a personne d'NTM pour en tout cas d'artistes, que ce soit Cool Chain ou Joe Star qui ont pu répondre parce que en fait ils étaient pris par plein de choses. C'est pour ça qu'on a un journaliste qui est venu parler d'eux. Mm-hmm. Mais sinon non, on a eu assez peu de refus et là pour la production des prochains épisodes, pour le moment ça se passe plutôt bien aussi.
Et à l'inverse, est-ce que certains ont joué des coudes pour être dans ce panthéon? Non,
pour le moment non, je pense que peut-être après 4 5 6 épisodes quand évidemment du béton au nuage ce sera devenu une référence dans l'histoire du podcast du rap sur le rap, peut-être, mais là pour le moment.
Camini va vous appeler.
Enfin, ouais, je pense que clairement. Et Christophe Barbier aussi.
Et Pascal me disait avant l'émission qu'il avait eu plein de coups de fil de Marseillais.
Ça a vibré depuis tout à l'heure.
Ça sonne. À travers ce podcast du béton au nuage, vous racontez 40 ans d'histoire du rap français avec des témoignages et des archives. Comment est-ce que vous avez fait le tri dans ces montagnes, j'imagine, de documents, d'archives, de souvenirs? Comment est-ce qu'on organise un truc pareil?
L'idée, c'était que les archives viennent illustrer ce que m'avaient raconté, ce que m'ont raconté les différents rappeurs, artistes que j'ai pu rencontrer justement. C'était très important notamment d'avoir des archives sur pour montrer à quel point à un moment donné le rap était aussi un reflet de ce qui se passait en France. Il y a tout un passage par exemple dans l'épisode 1 sur comment en fait le rap d'NTM ça concordait avec la médiatisation des émeutes. Mmh. Et donc effectivement il a fallu aller choisir dans les reportages d'époque des phrases qui étaient assez illustratrice en fait de cette crise des banlieues et comment c'était traité d'une manière par les médias grand public français, notamment la télévision, et comment justement en réponse à ça des rappeurs comme SonNTM ont essayé justement de montrer le point de vue d'habitants de banlieue. En fait,
Pascal, vous qui êtes le senior dans l'histoire,
vous avez bien compris la dynamique.
Ouais. Mais oui, bien sûr. Votre premier souvenir de rap, votre premier contact avec le rap?
Mon premier contact avec le rap, ça doit être peut-être Benebi, sinon MC Solar, Qui sème le vent récolte le tempo. Mm-hmm. Ça doit être le premier album que j'ai dû acheter, je pense.
Benebi,
il travaille à l'aéroport, un des artistes travaille à l'aéroport de Belgique, je crois, et il s'en sort très bien. Enfin, c'est ce qu'on disait à l'époque, je ne sais pas où ça en est pour lui aujourd'hui.
Alors, nous parlions de Marseille, hein, en particulier tous les deux, en début d'émission.
Non, mais j'adore le rap marseillais. Ouais. Mais...
tu en as ennuis maintenant.
Je vais avoir des problèmes.
Vous savez, moi, tant que je peux aider, avec Ayam, Marseille qui vient de rendre un dernier hommage à Bernard Tapie qui fut lui aussi rappeur avec Doc Gynéco.
Dis Bruno à ton ami, qu'est-ce qu'on vient foutre ici?
Engraisser des banquiers qui sur nos vies font des crédits.
Dis Bruno, qu'est-ce qu'on peut foutre ici?
Balancer la vérité, risquer nos vies.
Sur quel genre de curiosité êtes-vous tombé en préparant cette série?
J'ai pas de curiosité en tête là.
Non. Ça c'est pas mal ça.
Mais ouais, ça c'était pas mal ça.
Techniquement, on est d'accord qu'il rappe pas la tapis.
Ton cover.
Ouais,
il a un petit flow quoi.
Ouais, c'est ça, il fait du slam presque.
C'est ça. Mais comme ça reste Bernard Tapie, c'était quand même marquant pour l'époque. Et puis les paroles aussi, donc voilà.
Alors c'est un podcast qui est, disons-le, un très très bien produit. Merci. Vous avez une certaine pression avec un casting aussi soucieux des sons et des prods. Vous avez à l'œil quand même sur cette histoire.
Bah ouais, bien sûr. Non, évidemment, on était soucieux de la qualité aussi globale du rendu quoi, et c'est pour ça que ça a été très important pour nous d'avoir un réalisateur qui était Eric Lancien, qui fait partie du pôle des réalisateurs de Radio France et qui nous a beaucoup aidé justement pour rendre tout ça beaucoup plus dynamique et fluide, parce que moi une fois que j'avais toute cette matière, vous le disiez tout à l'heure, il fallait faire le tri avec les archives mais aussi avec toutes les interviews que j'avais, tous les dérushs que j'avais, les extraits sonores insérés, donc il fallait être évidemment très soucieux du rendu final en fait, pour que ce soit à la hauteur de l'ambition du projet quoi.
Et alors contrairement à moi qui suis toujours à l'affût de toute modernité,
vous n'avez pas cédé aux sirènes de l'autotune. Pourquoi?
J'avoue, on aurait dû le mettre sous autotune, Pascal, pour voir ce que ça donnait. Ça aurait été pas mal.
Mais ça va venir dans les futurs numéros.
Voilà. Quand on parlera de PNL, on le mettra sous autotune.
Vous êtes vraiment pas du tout obligé. Hein. C'est pas
Dans l'épisode numéro 1, retour aux fondamentaux, vous évoquez l'âge pionnier des années 80.
Au milieu des années 1980, un DJ en particulier va porter cette musique du bout de ses doigts posée sur des platines. Son nom, Dynasty.
Le père de changer de tempo à alors je suis descendu dans le métro.
Une dynastie a grandi à Pagneux, banlieue du sud de Paris. Passionné de soul et de funk à l'adolescence, il commence à s'intéresser au rôle du DJ et découvre le hip-hop lors d'un voyage à San Francisco à la fin des années 1970. À son retour en France, les sacs remplis de disques, il se met à mixer sur des radios libres alors que le rap s'affirme en devenant de plus en plus électronique.
Et c'est là où j'ai commencé à toucher aux platines, véritablement, et puis à me sentir bien dans la transmission.
Dynastique, on écoutait. Alors, sans ces pionniers des années 80, ça veut dire qu'il n'y aurait pas de rap contemporain?
Je ne pense pas, si je peux me permettre de répondre, c'est eux qui étaient là, donc voilà, mais comme à chaque génération, mais le mouvement était tellement fort, je pense que toute la jeunesse de France mangeait ce rap qui venait des États-Unis, et si ça n'avait pas été Dynasty, ça aurait été un autre. Et après, gros respect bien sûr pour Dynasty, parce que ça a été lui, et il a fait ce qu'il fallait faire, mais c'était évident que ça allait arriver en France, quoi.
Trois épisodes sont déjà dispo, 80-90, Planète Mars, la suite, ce sera quoi?
La suite, ce sera donc les épisodes 4-5-6 sur lesquels nous sommes en train de travailler. Bah, on va parler de l'âge d'or, en tout cas commercial, le premier âge d'or du rap français entre la fin des années 90 et le début des années 2000, avec des collectifs comme le Secteur A, comme BOSS for My People, qui ont confondé les membres d'NTM, les débuts de la Mafia Quinfri également. On va parler aussi de toute une scène dite alternative qui a émergé au début des années 2000 avec des groupes comme La Caution, TTC, qui ont amené une autre manière de dire qu'on pouvait faire du rap en français. Et puis l'épisode 6, on va s'intéresser à la naissance des vrais rap superstars. Là, d'un seul coup, on n'avait plus de collectif, mais vraiment des artistes en solo qui sont devenus des têtes de gondole. Évidemment, ce sera Booba, Rof, Diams, Soprano, La Fouine, Cynic, toutes ces personnes qui, dans les années 2000, ont un peu porté sur leurs épaules le rap français, alors qu'en tout cas commercialement, alors qu'on était en pleine crise de l'industrie du disque aussi, quoi.
Le Maxi Best Pop Pop Pop, Antoine Decaune.
Nous étions avec Pascal Seffran et Raphaël Dacruz, les créateurs du podcast Du béton au nuage. Eh bien, passons du béton au nuage, le temps d'écouter le morceau de Blame de Gabriels.
Mornings turn to night and then the night becomes the day. I can't keep up with time. I keep losing still, keep hoping for that when a new can change my mind. Not a slave if I'm already free. Not a captive if it's where I wanna be. Oh, la, 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 la. Then the crowd calls. Oh, la, 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 la. Who's gonna catch me when I fall down? Strolling down these halls of rolling dice and waterfalls, help but smile. Troubled fortunes lies and shambles underneath the flashing lights. Gonna stay a while. Said what I say, it don't matter to me. Can't be a slave if I'm already free. Can't be a captive if it's where I wanna be. Slave if I'm already free. Not a captive if it's where I wanna be. Then the crowd calls.
Blême, c'était un morceau de Gabriels. Beaucoup de nos invités nous ont conseillé le Floodcast en passant dans cette émission. Ce podcast original de Flaubert et d'Adrien Méniel est un podcast original à tous les étages. Nous avons rencontré ses créateurs en quête, comme on dit sur Mzis.
Sur
Mzis. Bon, Charline, je vous présente donc Flaubert.
Oui,
veux quand même,
hein, oui, je vous en supplie.
Comme pour nous tous, à notre éducation sentimentale. En fait, il a lâché sa plume pour faire des podcasts avec son pote Adrien Méniel, admet. Le résultat s'appelle le Floodcast. Pouvez-vous nous en faire un commentaire composé, Charline ?
Eh bien, un programme que je qualifierais de conversation entre invités éclairés et autres qui ne le sont pas moins, et en langage moins soutenu, un talk entre gens drôles et plein de réparties. Est-ce que c'est sur ce critère que vous recrutez vos invités ?
Bah, je t'en prie.
Adrien. Non, mais oui, évidemment, il faut que. En fait, on essaye d'inviter des gens déjà qu'on connaît un peu et puis avec qui on sait que ça va bien se passer, qu'il n'y aura pas de gêne, pas de blanc, qui ont un humour aussi qui est proche du nôtre, c'est important parce que on fait vraiment beaucoup de blagues. Donc si quelqu'un prend mal la première blague, par exemple, c'est assez gênant.
Ça gâche l'intégralité des émissions.
C'est arrivé ?
Non, c'est arrivé une fois, mais c'était pas une blague. Ça a été coupé au montage, mais c'était pas une blague de nous, donc ça va.
C'était quoi la blague ?
Non, on peut pas dire.
Oh là là. Ça y est, ça commence. Les têtes tomberont, on peut pas faire ça.
Voilà, ça commence. En toute liberté, sur Internet.
C'était une blague sur vous, Antoine.
Allez-y, c'est tout. Allez-y.
Je peux pas dire plus.
Bon, alors, je cite le pitch. Vous invitez vos copains pour parler de plein de choses. C'est un peu flou comme pitch, non ?
C'est le plus flou possible. Ah. Oui, le plus flou possible.
Mm-hmm. Alors, pourquoi ne pas l'avoir appelé le Floodcast ?
Oh oui,
je l'ai senti venir.
J'ai longtemps dit Floodcast parce que j'ai pas un accent dingue. Ouais, c'est ça. Donc ça a longtemps été le Floodcast. Ouais. Mais oui, mais parce qu'en fait, c'est difficile de dire que c'est autre chose. C'est vraiment. Alors après, copains, ça, on a un peu élargi parce qu'on n'a pas tant d'amis que ça.
Ouais, non.
Mais des gens, voire même une bonne dizaine.
Une poignée.
Et je compte ma famille. Ouais.
Bon, enfin, vous invitez des gens que vous aimez bien pour
c'est
parler
ça.
De plein de choses.
C'est ça. Et en fait, vu que c'est une émission qu'on fait depuis maintenant 6-7 ans, le fait est qu'on a 2015. Qu'on a croisé plein de gens. Donc c'est super puisque du coup, il y a plein de nouveaux qui viennent et tout. Et donc c'est assez cool à faire.
Leurs enfants même maintenant.
Ouais, on les attend.
Alors, concept flou, mais heureusement, les titres des épisodes allant de Shakira à Colostomy Bugsy en passant par la tub à Xavier Dupont-Ligonnès sont là pour nous éclairer. Note. Alors, combien de temps vous passez sur ces titres?
Ça sent une bonne 4-5 jours.
On fait des réus, des ping-pong.
Le Shakira, il est sorti au cours de l'émission.
C'est ça. Donc, souvent, c'est des trucs qui sortent pendant l'émission.
Mm-hmm. Ouais, c'est ça.
Colostomy Bugsy. Je suis juste ravi de dire ça sur France Inter. Je vais juste le préciser. C'est un régal.
Et nous donc?
Non, mais oui, ça, généralement, c'est des trucs qui sortent pendant l'émission et on se dit ah ça va être le titre.
Il y a des fois c'est on est frontalier disons avec la grossièreté parce que pas si loin.
Vous avez le passeport.
Ouais, exactement. Mais je crois que c'est un peu un truc justement de dire vu qu'on fait ce qu'on veut soyons grossiers. Enfin
grossier,
c'est un truc un peu
vulgaire.
Enfantin.
Parfois c'est ça,
un peu
c'est ça.
Grossier, très
un
vulgaire.
Un peu vulgaire.
Très vulgaire. Énormément vulgaire.
C'est tout pour me plaire. le Floodcast mise en bouche avec un extrait de vos recos.
Alors, d'abord un compte Insta d'un mec qui s'appelle Asher Perlman. Alors attends, je vais juste.
Stéphane Asher, par contre.
Stéphane Asher qui souhaite absolument déjeuner en paix.
En revanche, c'est sa meuf, lui. Oui, en vrai, il aimerait discuter, mais elle lit le journal en riant, donc forcément.
Asher Perlman.
Asher Perlman.
On regarde à peine et tout.
C'est un mec qui fait du. Alors, son compte Insta, c'est du dessin de presse. En gros, il fait des dessins dans le New Yorker parfois. Et je trouve très très intelligent et très drôle à chaque fois. Et il est aussi auteur sur le Late Show de Stephen Colbert.
D'accord.
Donc, le mec, c'est-à-dire que c'est la version Pokémon de moi. C'est-à-dire que le mec, il est auteur sur un truc ultra stylé, dessinateur sur un truc ultra stylé. Moi, je croupis chez moi.
Oh,
ça suffit maintenant.
Alors le Floodcast.
Moi j'aime la persévérance dans la vanne, même quand personne ne marche, même quand personne n'y va. Sur Stéphane Escher, fallait y aller.
Ah bah oui, ça.
C'est notre préféré, c'est quand personne réagit.
Non, c'est excellent. On s'est toujours demandé effectivement quelle était la position de celui en face. Là. Il n'avait pas envie. Bon, le Floodcast, c'est disponible sur toutes les plateformes. Vous dites que ce qui se passe dans cette émission n'engage que vous et le président des États-Unis. Alors sachant que le podcast a démarré en 2015, vous en êtes donc à votre troisième. Président, tous on est bien d'accord, ont validé la ligne éditoriale.
Et c'est fou parce que je pense qu'ils sont pas d'accord sur plein de trucs. Ah, et oui, c'est oui, le oui. seul truc où ils sont tous les trois d'accord. Donc c'est pas mal.
Sur le Floodcast.
Exactement. Ils le disent peu.
Chapeau bas, messieurs.
Et un Floodcast, un épisode réussi, c'est un épisode dont les auditeurs se disent « J'aimerais bien participer à la conversation avec eux » ou « Vos intentions sont tout autres ».
Non, je pense pas que ce soit une intention. Enfin, je pense que c'est. Enfin, moi, enfin, nous deux d'ailleurs, on consomme beaucoup de podcasts. Oui. Et je pense qu'une émission réussie en tant que consommateur, c'est quand on ressent comme une présence. Je sais que moi, par exemple, quand je fais la vaisselle, par exemple, j'écoute des podcasts.
Ça vous arrive souvent?
Tous les jours, absolument tous les jours.
Car une hygiène incapable.
Non, je vis seul, tout simplement. Et j'ai pas de lave-vaisselle. Non. c'est accompagner les gens dans leur vie. Et pas forcément on n'a pas envie d'être les amis des gens nécessairement, mais c'est une espèce de frontière un peu floue, encore une fois, entre ressentir une sorte de présence, d'amitié, mais en même temps, voilà.
Mais une connivence en même temps, je trouve. Enfin, il se dégage quelque chose de cet ordre-là quand on vous écoute.
Bah, je sais pas. En tout cas, moi, quand on a lancé l'émission, il y avait aussi moi tous les fantômes des émissions de radio que j'écoutais ou des émissions télé que je regardais. Il y avait beaucoup cet aspect bande qui faisait des vannes et tout. Moi, j'ai grandi avec la chaîne Comédie, par exemple. Et quand je voyais la grosse émission, je me disais ah tiens, c'est génial. Et on parlait de blagues qui durent quatre plombes et des fois les gens rentrent pas dedans. Et il y avait ça. Et c'était super cool. Et du coup, je me suis dit ah j'aimerais bien faire ça de mon côté avec mon pote. Et j'ai l'impression que les gens qui viennent passent plutôt un bon moment. Et alors ça fait un peu une phrase toute faite, mais c'est vrai que souvent les émissions que les gens ont l'air de préférer, celles où on a le plus de retours, c'est celles où nous on s'est quand même le plus amusé quand même. Donc mine de rien, c'est quand même assez cool.
De cause à effet. Donc ça existe depuis 2015, ça fait déjà 7 ans, ça fait presque de vous des pionniers quand même.
Je remonte mes manches un petit peu, mais oui. Y avait déjà plein de gens avant nous et puis c'était très connu aux États-Unis. Après c'est vrai qu'il y a eu derrière une vague qui est arrivée avec des sociétés qui sont intéressées par ça et tout. Nous on a commencé vraiment dans notre coin et on est toujours dans notre coin, donc c'est trop
cool. Comment est-ce que vous avez vu évoluer les podcasts depuis 2015?
Je vais garder ça. Non, ça s'est beaucoup professionnalisé. Enfin, ça l'était déjà aux États-Unis depuis un moment, comme t'as dit, Flaubert. Gus, pardon. Non, mais ouais, c'est ça. C'est-à-dire qu'à la fois, les petits podcasts artisanaux se sont vachement développés et parallèlement, les podcasts très professionnels se sont aussi vachement développés. Ouais. Et c'est ça, je trouve aussi qu'on aime bien, c'est ce côté, il y a de la place pour tout le monde. Mm-hmm. Parce que bah, finalement, le matériel, c'est assez simple à avoir et tout ça. Donc n'importe qui peut faire un podcast. Et du coup, c'est ça qu'on aime aussi, c'est ce côté, bah, il y a de la place pour tout le monde, aussi bien les pros que les gens qui veulent faire ça dans leur chambre. Et voilà.
Charo, à vous.
c'est trop compliqué, il y a trop de lettres, je peux pas, c'est au-dessus de mes capacités intellectuelles. Tant que je réfléchis, ça ne me viendra pas.
Tentez votre chance.
On parle beaucoup du fait que beaucoup de programmes audio s'inscrivent maintenant dans ce qu'on appelle des niches. Vous continuez dans une veine fun et généraliste. Est-ce qu'il y a eu envie à un moment de resserrer, peut-être pour être plus dans l'air du temps, ou votre énorme communauté vous prémunit contre ce genre de tentation?
Oh, je crois que même c'est un esprit de par contradiction, c'était un peu vénère, mais on n'avait pas envie, non, on avait envie de garder ce truc de talk. C'est même pour ça aussi où parfois il y a des mois où il n'y a pas d'émission, parce que juste on n'a pas envie, donc ça c'est quand même une liberté géniale, ou alors on a des trucs à faire, donc on fait d'autres choses. On a toujours gardé le podcast en hobby et en plaisir, et on a fait évoluer un petit peu l'émission, parce qu'au début on avait des thèmes un peu imposés avec les invités. Et en gros, on n'est pas éditorialiste, on n'est pas rédac chef, donc on a vite tourné, on a tourné en rond très vite. Et donc c'est pour ça qu'on est parti sur cet autre truc de prendre l'actualité un peu bizarre et s'en servir pour amener des sujets. Typiquement, quelqu'un a une anecdote un peu marrante d'avion, et donc on parle de ça autour de la table, et chacun a toujours une petite anecdote sur quelque chose. Et donc voilà. Mais non, on n'a jamais. La phobie des fêtes foraines dernièrement, exactement.
Voilà une ligne de conduite, faire les choses par plaisir, à laquelle il ne faut jamais déroger. On en sait quelque chose. Hein, Charline,
avec m'en parlez pas.
Petite quotidienne. Flaubert, admet. On retourne floodcaster ensemble dans la suite de Papa.
Vous appelez à quoi du coup? C'est ridicule.
Juste. Mais oui, allez-y. Ce sera juste après La Vie de tous les jours. C'est le dernier morceau de Jacques.
Dans la vie de tous les jours, il n'y a rien à célébrer. Chaque chose qui se passe ne fait pas un souvenir. Les sourires sont au repos, chacun fait ce qu'il doit faire. C'est pas comme sur les réseaux, dans la vie de tous les jours. Ouais, la vie de tous les jours, dans la vie de tous les jours. C'est la vie de tous les jours. Dans la vie de tous les jours, il n'y a rien à signaler. Les voisins se disent bonjour et les chiens se laissent promener. Je suis content quand il se passe rien, au moins il se passe rien de mal. C'est pas ce qu'on voit aux infos, c'est la vie de tous les jours. Ouais, la vie de tous les jours. Dans la vie de tous les jours, c'est la vie de tous les jours. Les choses qu'on fait tous les jours n'ont pas vraiment d'intérêt, mais en vrai, n'a-t-on pas intérêt à faire ce qu'on fait? Au fond, je sais, mais chaque fois j'oublie, il n'y a rien de plus vital que le vide de tous les jours.
Antoine Decaune. Pop pop pop.
Il s'agit du flow de cast.
Ça pue sa mère. Podcast.
Florent Bernard.
Bravo.
Adrien Méniel.
Bravo, bravo.
C'est très très impressionnant.
Ah ouais, c'est toujours un spectacle hein, de toute façon.
Oh, c'est la rentrée, c'est la rentrée, c'est la rentrée.
Bonsoir et bienvenue dans ce nouveau numéro du Floodcast, un numéro de rentrée.
Oui, c'est bien Florent Bernard et Adrien Méniel qui sont nos invités aujourd'hui pour parler de Floodcast.
Il
oui,
a donné son accord, Thierry Beccaro. On est d'accord que c'est lui qu'on entend dans
Il y a du Thierry Beccaro, il y a du Michel Sardou. Mm-hmm. Le bravo, c'est Michel Sardou.
Ah ouais, je savais même pas.
Ouais.
Très peu importe.
Et la question, c'est est-ce que vous avez réglé les droits, c'est ça
bien grave,
oui, bien sûr.
Vous êtes dans la merde aussi.
On tombe, vous tombez.
Bon, alors, tout comme nous, mes chers amis, vous parlez de pop culture et à travers vos épisodes spéciaux, vous vous intéressez à Star Wars, à Harry Potter, à Spider-Man ou encore à Batman et je vous présenterai Cosmo Flash tout à l'heure, notre chroniqueur masqué. Tout comme nous dans Pop Pop Pop, vous parlez donc de pop culture de pop, mais aussi de cul. Mais vous, c'est un peu plus trash.
Un mec qui dit, je marchais dans la rue tout à l'heure, je lève les yeux, je vois un anus de chien passer. Donc déjà, quoi. Et la première image qui me vient à l'esprit, c'est Adrien Méniel en train d'enculer le chien.
Mais...
Faut que j'arrête le Floodcast. Faut que t'arrêtes beaucoup d'autres trucs en fait.
Adrien, est-ce qu'on peut placer...
Je suis ravi.
Vous pouvez l'appeler Admin.
Admin, pardon. Est-ce qu'on peut classer votre émission comme une émission de pop cul?
Pop cul, absolument. Puis tout public aussi, comme vous pouvez, voilà, c'est pour toute la famille. Voilà. Et les amis des animaux aussi vont se régaler. Il y en a pour tout le monde. Non, c'est oui une blague que j'espérais voir disparaître. Donc je suis ravi qu'elle soit relancée comme
mais
ça.
Il y a toujours des traces sur. Mais justement, oui, c'est un très beau
problème.
C'est un très beau bouquet final de finir ici cette blague.
Voilà. Bien sûr, enfin finir. Je suis pas sûr que ce soit.
Si
la
fin,
mais... Et puis nos auditeurs ont les oreilles larges.
c'est pas faux.
Comme mon chien d'ailleurs.
Est-ce que vous êtes déjà arrivé d'être face à des invités qui ont plus de filtres que vous, on va dire. Comment vous vous en débrouillez? En partant de la situation précédente.
Oui, par exemple. Je crois qu'on met aussi une ambiance qui fait que les gens sont assez à l'aise très vite. Moi, je, pour les nouveaux invités, à chaque fois, je commence l'émission en disant, écoutez, tout est coupable à fond. C'est-à-dire qu'on peut couper n'importe quoi. Non, pas tout est coupable.
C'est rigolo parce que parfois, on vous entend dire ça dans l'émission et ça n'est pas coupé.
Ouais, mais parce que justement, c'est ça qui est très drôle, c'est que les invités disent, non, ça va, en fait. Et ils sont suffisamment à l'aise pour pas avoir peur qu'on les mette mal. Et je pense que oui, l'autre truc, c'est qu'on dit des choses très personnelles aussi, donc on met une ambiance. On a quand même, Adrien a quand même livré un truc très perso. Moi, on parle beaucoup de notre enfance, de trucs un peu personnels. On parle pas que du chien, mais aussi on parle
d'autres trucs. Hein. C'est pour les gens qui connaissent pas l'émission. C'est des morceaux choisis. Hein.
Adrien est en train de me faire des grands signes. Hormis, on peut le couper le truc.
Non, mais c'est vrai que voilà, et même parfois on parle de, parce que c'est une émission où on rigole et on fait plein de blagues, mais on parle aussi de trucs sérieux en faisant des blagues. On a pu parler du deuil, on a pu parler de plein de choses. Et du coup, ouais, ça met une espèce d'ambiance assez cool. Mais comme le disait Adrien en début d'émission, il y a aussi ce truc où on invite souvent des gens qui quand même nous connaissent un petit peu ou voient à peu près le ton, donc ils sont pas complètement surpris.
Pourquoi t'es mal briefé?
La
séquence que j'évoquais, vous parlez majoritairement de cul, s'appelle le quiz et vous nous ferez une démo grandeur nature en fin d'émission.
On a hâte. Est-ce qu'il y a des domaines, des sujets dont vous ne vous approchez pas?
Le deuil.
Non, parce que là, vous venez de faire un inventaire de choses, finalement, un panel assez large, mais est-ce qu'il y a des terrains sur lesquels vous refusez d'aller?
Je pense que la règle générale, c'est juste si on se sent pas concerné ou compétent pour parler d'un sujet, on n'en parle pas, quoi, tout simplement. Le deuil, il se trouve que... Voilà,
j'étais trop fort à ça. j'étais super fort à ça.
Donc on parle de ça. On parle de choses qui nous touchent et dans lesquelles on a on pense avoir une légitimité pour en parler. Mais après, et puis aussi, parler de trucs sérieux et en plus des sujets qu'on maîtrise pas trop, je pense que c'est trop casse-gueule et c'est vraiment pas une bonne recette.
Ça se fait, on regarde tous les jours.
Florent, oui pardon.
Allez-y, non, je vous en prie.
Florent, Adrien, votre Floodcast est un carton, il fait partie des podcasts français indépendants les plus écoutés. Quelle est, selon vous, la recette de ce succès, comme on dit dans Capital?
Pareil, je suis désolé, je fais que des phrases toutes faites, mais je crois que la recette, c'est qu'il n'y a pas trop de recettes, c'est-à-dire qu'on fait
joli,
vrai.
Arsène Lupin, il part par la fenêtre.
C'est à mi-chemin entre Lupin et Lignac, on ne sait pas trop.
Tu m'as vu, mais tu ne m'as pas regardé, Adrien.
La recette, c'est donc l'absence de recette.
Voilà, c'est ça.
La liberté.
C'est ça. Oui, je pense. La sincérité aussi. Et après, voilà, on n'est pas non plus complètement. On faisait des choses sur Internet avant, on a eu un mini pied à l'étrier au tout début. Maintenant, c'est ça qui est rigolo, c'est que les gens nous parlent quasiment plus du podcast que avec Adrien, on s'est connu sur une chaîne YouTube qui s'appelait Golden Moustache ou des choses comme ça.
Il y était.
Mais moi, un de mes premiers souvenirs dans le monde de l'audiovisuel, parce que c'est aussi ça, Floodcast, on partage des anecdotes, c'est avec vous, Antoine, puisque vous étiez le Golden Show même. Vous étiez venu. J'étais là. Vous m'avez. Encore une fois, je suis Arsène Lupin. Vous m'avez vu, mais vous m'avez pas regardé.
Vous étiez barbu?
J'étais pas barbu. J'étais tout jeune.
Il avait un cochon d'Inde.
J'avais un cochon d'Inde.
Un cochon d'Inde accroché. Ah oui, je me souviens, c'était vous.
Et j'avais fait ce truc très honteux quand l'émission s'est arrêtée. J'avais pris des numéros de téléphone de gens connus en me disant comme ça, si j'ai pas de travail. Je rappellerai, et j'avais pris votre numéro, je vous avais jamais appelé.
On va dire à l'antenne, c'est pas vrai.
Allez-y, Adrien. C'est pas vrai. Vous m'avez appelé. Vous m'avez appelé 300 fois. C'était même embarrassant. Charo, non, pardon, on dit pas Charo.
Non, Charline, on dit pas Charo, on évite.
On dit pas Charo, c'est une insulte. Charline.
Est-ce qu'il y a des épisodes crossover prévus, puisqu'on parle de podcastverse? Vous avez fait un épisode avec 2 heures de perdu. Est-ce qu'il y a d'autres programmes avec lesquels vous aimeriez fusionner?
Vas-y, Florent.
Non.
Ça veut dire, j'ai pas la réponse.
Je n'ai aucune réponse à donner.
Faut savoir que
je déteste tous les autres podcasts.
C'est ça. Voilà.
En fait, il y a deux choses. C'est que moi, déjà, ma culture podcast est pas énorme. J'en écoute assez peu. J'écoute plutôt des émissions de radio.
L'inverse de ce que j'ai dit tout à l'heure, du coup. J'ai dit qu'on en écoutait
plus.
J'en écoutais beaucoup.
Mais non, des trucs américains. Mais c'est vrai que des podcasts français, j'en écoute assez peu. Donc, je ne saurais pas dire. 2 heures de perdu, typiquement, c'est une rencontre, en fait, avant où on s'est vu et on a plutôt bien matché. Donc, on s'est dit, venez. Mais pourquoi pas pop-up du coup, j'ai envie de dire, l'invitation est lancée. Mais en tout cas, les émissions, faut que vous sachiez, elles sont prévues 4 jours avant. Et il y a même souvent, les invités sont appelés la veille pour le lendemain, donc on n'est pas aussi en avance sur les émissions.
Les planning,
c'est moi qui gère et je suis extrêmement désorganisé, vraiment on fait vraiment tous les deux, quoi. Donc
on est une équipe de deux,
c'est ça. Donc du coup, non, on est complètement à la ramasse sur ça.
Le Maxi Best Pop Pop Pop, Antoine Decaune.
Merci Flaubert, merci Adrien Méniel. Le Floodcast, c'est le podcast que nous vous conseillons d'écouter avec Du béton au nuage, celui de Pascal Seffran et Raphaël Dacruz et tous les autres de notre collection du vendredi. Merci d'avoir écouté notre maxi Best Pop toute la semaine. Retour de Pop 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 en direct dès lundi et d'ici là, bon week-end.